à Québec.
Boulevard, le Pit Stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau, on refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
C'est quoi, on a-tu un Steven Spielberg ici en studio, Denis?
Il y a beaucoup de gens qui se prennent pour Stanley Kubrick depuis qu'on a des nouvelles caméras
en studio. Ça n'a aucun sens. Il s'envoie des propres images de lui-même pour se regarder.
J'ai regardé Médusé pendant 15 minutes. Ouais. Audrey Pinchot se prendre pour George Lucas hier soir.
Ça doit être pour ça qu'Audrey s'habille vraiment chic ces temps-ci.
Ah, ouais, ben là.
Ça doit être à cause des nouvelles caméras. T'es hier, je la voyais veston.
C'était pas les nouvelle caméra hier. On avait de la belle visite hier avant-midi. On a passé l'avant-midi avec Pierre-Aude.
Ben oui, vous avez été gâtés.
Oui.
Comment il a trouvé son expérience à Québec?
Il a beaucoup aimé ça. Il a eu beaucoup de plaisir. Il aimerait ça descendre plus souvent, mais c'est un gars qui est occupé, ça a l'air.
Il est contre la bagarre?
Comment est-ce qu'il m'a dit ça?
Est-ce qu'il est contre la bagarre?
Il dit que c'est un match de bouffon. Il dit c'était un match de bouffon. Puis je pense qu'il l'a même dit à RDS. Je pense que l'extrait s'est promené un petit peu là.
Il a dit un bouffon sur il a dit ça sur le je pense que c'était sur le défenseur Sebrango qui t'a comme pogné Kirby Dack à un moment donné. Il a dit un bouffon qu'on ne reverra jamais dans la LNH, quelque chose de même.
Je peux pas utiliser les mots que Pierre-Aude a utilisés dans le lounge hier avant-midi, mais j'ai cru comprendre que le coach des Sénateurs, c'était pas son préféré.
Mais ça, c'est drôle quand t'es habitué de voir une personnalité publique utiliser un certain vocabulaire.
Hey, la première fois que je l'ai entendu sacré, là, je suis parti à rire. Là.
Moi, ça m'est arrivé avec la dame qui faisait les voix de Weekend Radio à Québec et à Montréal.
Oui.
À un moment donné, je l'entends parler dans les corridors, puis c'est cri de tabardette. Il me semble que c'est elle. Ça se peut-tu?
On a vraiment 8 ans. Hein? On entend quelqu'un sacré pour la première fois, puis on est de même.
Il y a des gens pour qui c'est naturel de les entendre.
Oui.
Mais il y en a d'autres qui font vraiment attention à la façon dont ils parlent lorsqu'ils sont en public. Mais quand ils sont en privé, ça sort de travail. Tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? On parlait avec le mouvement des usagers de la santé tantôt, oui. Denis. Puis on en a parlé un peu avec Jeff et Max ce matin. La santé, c'est pas une fierté au Québec. Il y a énormément de difficultés. Puis tu sais, les histoires de rendez-vous avec le médecin. T'as-tu un médecin de famille, toi?
J'en ai un.
OK. Ouais. Ça m'est jamais arrivé. Parce que quand je vais à l'hôpital, j'y vais parce que là, je suis plus capable puis je serais peut-être même mort. Mais bref, j'y vais puis j'ai un problème puis il me le règle. Mais il y a des gens qui ont des problèmes de santé, qui ont 2-3 problèmes de santé puis qui se font régulièrement dire « Madame, monsieur, c'est un problème par rendez-vous. »
Ça, ça n'a aucun maudit bon
sens.
Mais
pourquoi on permet aux médecins de faire ça? Puis quand je parle avec les gens de la Fédération des médecins, ils nous disent « Non, ça, c'est une légende urbaine. Ça arrive pas. »
Non, c'est pas une légende urbaine. Ça arrive pour vrai.
Ben, les auditeurs vont nous écrire. Ben oui. Ça arrive à tout le monde.
Il y a bien des gens qui se sont fait dire ça. Puis ce matin, dans le journal, c'est Mylène Moisan dans Le Soleil qui raconte une histoire à crever le cœur d'un gars qui avait mal au ventre. Un gars dans la quarantaine, de nos âges, tabarnouche.
Ah oui, au fait.
Puis
en passant, les gars, là, puis je parle à vous autres qui êtes dans vos voitures, on est tous susceptibles que ça nous arrive, ça. Parce qu'on dit, à un moment donné, ça va passer, ça ne tente pas d'aller faire 8 heures à l'hôpital.
Mais le gars là qui est, dont on raconte l'histoire fait pas partie des gars qui s'est dit hey, j'ai mal mais je suis un gars j'irai pas voir le système de santé.
Mais non, il est allé.
Puis sa blonde, il a mis de la pression, puis il a pris des rendez-vous, puis il a essayé de trouver un médecin, puis il a eu ses rendez-vous, puis il a été botché. Il a été botché 3 ou 4 fois dans le système avant que finalement la douleur devienne tellement intense, t'sais, il était tout le temps rejeté. Ah, tu fais du reflux gastrique, là, prends cette pilule là, puis ça va passer. Mm-hmm. À un moment donné, la douleur l'empêchait de travailler, l'empêchait de dormir. Il est allé à l'urgence, puis là, il a dit « Ben, moi, je sors pas d'ici tant que vous trouvez pas c'est quoi. »
45 ans, le gars.
45 ans. Et après des mois et des mois de démarche, après des mois et des mois à faire ce qu'on est tous supposés faire, ben, il y a un médecin ou une médecin qui a décidé de pas le botcher. Le problème, c'est que le cancer est rendu trop avancé. Le cancer s'est étendu. Le cancer qui était là la première fois qu'il a eu son premier rendez-vous puis qu'on lui a dit « Monsieur, vous faites du reflux gastrique ». La première fois qu'il a eu un rendez-vous où il a demandé un renouvellement de ses ordonnances, puis là, il a commencé à parler de son mal de ventre, puis il s'est fait dire « Monsieur, c'est seulement un problème. Aujourd'hui, vous êtes là pour renouveler vos ordonnances. Votre mal de ventre, on n'en a rien à branler dans le système de santé ». Tout ce temps-là, le cancer se développait, le cancer s'étendait, puis le cancer devenait incurable. Mm-hmm. Ça brise le cœur. Ça pourrait être toi, Yann, ça pourrait être moi, ouais. ça pourrait être Jeff.
Ouais.
Puis dans 40 ans, ça pourrait être Max.
Ou je suis il a enduré le son... plus susceptible d'être le premier.
De ce que je comprends, c'est qu'il a enduré son mal comme ça pendant quelques semaines avant de commencer à consulter. Puis ouais. comme tu l'as dit, il a fait la run où il se ramassait au guichet de santé. Il avait un rendez-vous, il allait, on le retournait à la maison. Ça va passer, monsieur, ça va passer, monsieur. Ça me fait penser au dossier de Jock Teasdale.
Ouais.
Ouais. Lui, il avait fait tous les tests, puis ils ont juste oublié de le rappeler pour dire qu'il y avait une problématique, puis le monsieur en est décédé. Est-ce qu'il serait décédé d'autre chose? Je ne sais pas. Il va y avoir une enquête dans ce dossier-là, c'est sûr. Certain parce qu'il y a une, il y a une poursuite. La famille de Jacques Teasdale poursuit le gouvernement du Québec dans ce dossier-là.
Il lâche pas le morceau et c'est noble et louable. Bravo à la famille.
Mais il y a tellement de problématiques. Il y a un auditeur qui m'écrivait tantôt, il y avait 5 kisses sur la tête.
Sur la tête.
Là, il fallait y enlever ces kisses sur la tête. Donc, pendant qu'il était en attente de se faire enlever ces 5 kisses-là, il y en a un 6e qui a poussé. Et quand il s'est ramassé sur la table d'opération, le chirurgien il a dit, il y a 5 kisses enlevées, moi j'en vois 6, j'en enlève 5.
Ben non!
Ben c'est, écoute, c'est l'auditeur qui m'a écrit tantôt.
Ben non!
Ben oui!
Ça n'a pas de maudit bon sens.
Ça n'a pas de bon sens.
Ah, puis après ça, ben, on a un premier ministre qui fait un discours inaugural en chambre, puis tout le monde sourit, tout le monde papote, ça se lève debout aux deux mots.
Les ovations debout, plus capable.
C'est bien plus gênant ça que l'hommage à la reine avant. Là.
Ben oui, hey, l'ovation debout à François Legault qui répète les mêmes promesses qu'en 2018, puis son discours c'est un constat d'échec.
Il a fait jouer
un
vieux
disque. On se lève debout et on l'ovationne, ouais. C'est tout. C'est tous des engagements que la CAQ n'a pas respectés.
Ils ont joué le vieux hit de 2018, puis tout ce que ça a fait, c'est mettre en lumière ce qu'ils nous ont dit quand ils sont arrivés au pouvoir puis qu'ils n'ont pas fait. Puis le monde, il se lève debout comme des otaries, puis ça applaudit. Hey, c'est pas yard.
Ben, remarque qu'on aime ça, les greatest hits des groupes, fait que peut-être pour ça.
C'est de la mauvaise nostalgie, ça,
les,
Jeff.
Les témoignages rentrent, Jeff. Même chose pour ce qui est de ma belle-mère l'an passé. Elle est malheureusement décédée quelques mois après avec un cancer du pancréas. J'étais à l'hôpital. Ma mère était à l'hôpital. On lui a dit que c'était une pneumonie, finalement, après de multiples vérifications. On s'est aperçu que c'était un cancer du poumon qui était non traitable. Donc, 5 mois plus tard, elle est décédée. Les commentaires comme ça, ça rentre comme pas possible depuis qu'on parle de ça. Moi, je l'ai vécu, puis tu sais, je le regrettais un peu. J'en parlais avec Jeff ce matin. Je pense que je t'avais déjà parlé de ça, sans nécessairement nommer la personne. J'étais à l'hôpital à tous les jours ou tous les deux jours pour des maux de ventre. Puis je devais accompagner cette personne-là parce que c'est une personne qui était dans ma vie puis que j'aimais beaucoup. Puis du matin jusqu'au soir, on était à l'hôpital aux deux jours. Puis le soir, la nuit, elle se plaignait. Puis là, ben, je me levais, j'allais mettre son petit sac magique dans le micro-ondes. Puis je ramenais le sac magique dans le lit. Puis là, je mettais sur son ventre. Puis là, ben, là ça la réconfortait. Mais le lendemain, on repartait à l'hôpital. Denis, j'ai dit des choses. J'étais à la radio à ce moment-là. Ça veut dire que c'est à partir de à Québec. Ça veut dire que c'était à partir de 2011. Je ne saurais pas te dire la date exacte, là, mais aux alentours de 2011-2012. Puis il faut faire attention là, quand le monde il nous connaisse. Mais ben, faut que tu fasses attention à ce que tu dis. Mais là, à l'hôpital, là, ça faisait 7-8 rendez-vous qu'on était là, puis ils nous faisaient retourner à la maison parce que, bon, madame, c'est un mot de vente, ça va repasser. J'ai pété les plombs. J'ai dit des affaires qui auraient pu faire en sorte que je rencontre un juge quelques heures plus tard, là. Mais le monsieur, c'était un urgentologue, il m'a pris au sérieux, puis il dit « Très bien, monsieur, on va la monter sur l'étage, on va vérifier ce qu'il y a à l'intérieur. » Puis ils l'ont opéré d'urgence, c'est parce qu'elle est en train de s'intoxiquer. Ses intestins ont explosé dans son ventre.
Ah, mon Dieu!
Puis elle est en train de s'intoxiquer. Elle n'allait plus aux toilettes, puis ils ont décidé d'ouvrir ça pour enlever tout ce qu'ils pouvaient enlever pour tenter d'y sauver la vie. Hey. Et puis aujourd'hui, avec des médicaments, elle est correcte.
Mm-hmm.
Mais ça a été 7, 8, 9, 10 fois on était à l'hôpital puis se faire retourner à la maison. On a pris la place de combien de gens à tout le temps y retourner? S'ils nous avaient traités la première fois, on n'aurait pas attendu comme les autres jours.
C'est ça qui est choquant, c'est qu'un coup que t'as passé une couche immonde de jello visqueux où t'es botché, où t'es reviré chez vous et tout ça, un coup que t'es au deuxième étage, le système de santé y opère. Les gens, ils s'occupent de toi. Puis tu sais, moi, je l'ai vécu avec un enfant qui, à la naissance, avait des problèmes. Ils s'en sont rendus compte tout de suite. tu passes le bout du jello puis tu te ramasses à l'étage. À l'étage, il s'occupe de toi. À l'étage, le système de santé fonctionne. À l'étage, t'es-tu une priorité? Mais de se rendre là, des fois, là, ça prend des mois et des mois. Ça prend un cancer qui s'étend, qui devient incurable. Ça prend quelqu'un qui s'intoxique de l'intérieur. Quand on arrête de nous botcher, le système, il fonctionne, mais on nous botche des fois tellement souvent et tellement longtemps qu'on prend des choses qui seraient plus facilement traitables, qui coûteraient moins cher au système de santé, puis qui coûteraient moins cher en temps mobilisé aussi. Puis on fait en sorte que ça devienne soit inopérable, soit grave, soit qu'on garde des séquelles. Puis je suis pas surpris que les témoignages soient nombreux à rentrer. Si ça nous est pas arrivé à nous autres, c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît puis qu'on aime.
Moi, je l'ai dit, je suis en vie à cause de ma tête de cochon. Je suis arrivé à l'urgence.
Ça, oui.
Oui, ça, c'est clair. Non, mais je suis arrivé à l'urgence février, là. C'était juste avant la COVID, donc février 2020. Et j'avais une bosse sur la jambe et ça me faisait penser à la phlébite que j'avais eue en 2013. Ouais. Fait que je passe au triage, je lui dis « Regardez la bosse que j'ai sur la jambe, ça s'apparente. En plus, je suis vraiment essoufflé ces temps-ci. Je monte les escaliers chez nous, j'ai besoin de m'accoter sur le mur pour prendre mon souffle. »
Pas normal, hein?
Je suis quelqu'un en forme, ça fonctionne pas. Pouvez-vous faire les vérifications? Puis l'infirmier au tri, « Non, c'est pas ça. C'est juste parce que t'as reçu une rondelle au hockey, c'est une petite contusion, etc. » Fait que le lendemain matin, je me lève, puis j'ai, il n'y en est pas question. Je réussis à avoir un rendez-vous dans une clinique sans rendez-vous. Je me présente, puis c'était la clinique où ma médecin de famille était. Fait que ma médecin de famille, quand elle voit ça, elle dit « Hey, donnez la place à quelqu'un d'autre. Moi, je vais le prendre entre deux rendez-vous. » Et je me présente à ma médecin de famille, puis j'ai, regarde les symptômes que j'ai. Elle dit « OK, j'appelle moi-même à l'urgence. Go, je faisais une embolie pulmonaire. 48 heures plus tard, je serais mort. » T'imagines? Ouais.
Il y en a combien qu'on sait pas?
Mais après ça, on se demande pourquoi les gens vont aggraver leurs symptômes à l'urgence. Oui. Ben parce qu'ils se sont fait traiter de même une fois, puis ils prennent plus de chance.
Il y en a combien qu'on sait pas?
T'as tellement raison. Parce que maintenant, si j'ai à aller à l'urgence, là, je vais te dire une fois, je suis bien plus magané que je suis en réalité. Ouais. Parce que cette fois-là, là, je l'ai joué super calme. Hey, vous voyez, j'ai une bosse comme j'avais en 2013. Puis là, je sais qu'en 2013, vous m'aviez fait passer des tests pour les poumons, le cerveau, le cœur, à savoir, y a-t-il un caillot qui est allé, là, je veux vous dire que dans les symptômes, il y a de l'essoufflement, je suis vraiment essoufflé, mais j'ai pas dit ça en panique. J'ai pas dit ça en pleurant, je l'ai dit sous le ton que je suis en train de te le dire.
Mauvaise stratégie.
Oui, aurait fallu que je rentre paniqué.
Mais on devient coupable, toute la gang, collectivement, parce que maintenant, on aggrave tous nos symptômes, puis c'est comme ça que tu paralyses le système de santé. Mais je comprends les gens qui font ça. Moi, quand j'ai eu du stress avec un gamin à un moment donné puis que je me suis ramassé à l'urgence, j'ai-tu fait de l'enflure verbale pour essayer de monter d'un code? Absolument. Est-ce que je le regrette? No fucking way. Je m'inquiète de la santé de mes enfants. Je veux être pris au sérieux. Mm-hmm. Je fais ce que tout le monde fait.
Dans le cas de Jeff, là, on change un peu l'histoire. On le met célibataire. Jeff va consulter parce qu'il file pas. Mm. OK? Puis on le retourne à la maison. Il va consulter, il fait le pas, on le retourne à la maison. Là, tout d'un coup, il fait affaire avec son médecin de famille. Son médecin de famille dit « Hey, rends-toi à l'urgence. » Puis il va à l'urgence, finalement, il décède. Puis là, ben, y a-t-il une enquête sur Jeff?
Pense pas.
On l'a retourné comme 4-5 fois à la maison. Y a-t-il une enquête? Est-ce qu'on va savoir ce que Jeff a fait dans les derniers jours pour s'empêcher de mourir? Nous autres, on le sait, l'histoire de Jeff, parce qu'il nous le raconte. Les auditeurs qui nous écrivent, là, on connaît leur histoire parce qu'ils nous le racontent. Mais y a-t-il quelqu'un qui s'occupe de ce type de dossier-là au gouvernement? Ben, tous les gens qu'on a échappés dans le système qui sont morts. Si c'est pas médiatisé, Jeff, le coroner s'en occupera jamais, probablement.
Tu parlais de la famille de M. Teasdale tout à l'heure. Si la famille fait pas ces démarches-là, il y a personne qui est fait à leur place.
Ça fait peur.
Ben oui, ça fait peur. Puis notre système de santé devrait être redevable quand il y a des erreurs comme ça. Puis ces erreurs-là devraient être pointées du doigt. Pourquoi? Pas nécessairement pour que des gens perdent leur job, mais pour que le système devienne plus efficace puis qu'il s'améliore dans des diagnostics. Parce que pour une histoire comme ça que Jeff nous raconte, ou pour une histoire comme le pauvre gars dans quarantaine qui est pogné avec un cancer incurable puis qui est dans le journal ce matin puis on raconte son récit... Il y en a combien des histoires comme ça qui ne retrouvent jamais d'écho ou de résonance? Qui arrive, mais tout le monde s'en fout un peu, puis la vie continue.
Puis c'est plate parce que nous autres, on a le droit à l'erreur dans notre métier. Puis il y a plein de gens qui nous écoutent, là, ils ont le droit à l'erreur dans leur métier. Puis tu sais, nous autres, c'est assez facile. Regarde, je me suis trompé de nom, j'ai déclaré l'individu coupable, il ne l'était pas, je m'excuse.
Ouais.
Mais pour eux autres, quand il en échappe un, c'est parce que c'est la vie et la mort de quelqu'un.
C'est pourquoi cette job-là doit être... bien payé, bien réglementé, bien encadré, que les études sont rigoureuses, puis quelqu'un qui embarque dans ce champ d'expertise-là doit se faire répéter constamment « Toi, tu fais partie des gens qui n'ont pas le droit à l'erreur. » Le chirurgien cardiaque qui a sauvé la vie de mon enfant, il ne peut pas en échapper un.
Non.
Il brise une famille, il brise des vies. Moi, je serais pas capable de vivre avec ce poids-là.
Puis probablement que c'est quelque chose qui se passe dans sa tête aussi. Ben, il n'a pas réussi à sauver la vie d'un enfant. Ça doit être terrible.
Puis ça doit arriver une fois de temps en temps, là.
On a vraiment des témoignages. J'ai sauvé la vie de mon fils un mois en pétant un plomb pour le faire soigner quand son fils avait un mois. Les infirmières ne me croyaient pas, urgentologues non plus. Finalement, méningite bactérienne, soins intensifs et hospitalisation pendant un mois. Mon fils a une lésion au cerveau, mais heureusement, aucune séquelle. T'imagines?
C'est-tu normal d'être obligé de se fâcher comme une carène au Walmart, au service à la clientèle, pour que le système de santé réponde puis qu'on nous prenne au sérieux?
Puis là, tes agents de sécurité qui arrivent, M. Gravel, vous devriez baisser le ton.
Ben oui!
Ouais.
Puis, tu sais, on n'est pas venu ici de par... on n'est pas venu ici de par notre temps, là. Je suis pas avec un toaster puis une facture pour me faire changer
Non, quand on va à l'urgence, parce qu'on est vraiment rendu au dernier recours, ben de la façon que l'urgence fonctionne. En 2007, mon père a commencé à mal filer. Les deux premiers médecins n'ont rien détecté pendant deux mois, mais n'ont pas examiné. J'ai fini par réussir à rien trouver. J'ai finalement donné mon rendez-vous chez mon médecin de famille à mon père. Lui a pris le temps. Résultat, diagnostic d'un cancer aux intestins et au foie, il est mort 6 mois plus tard.
Ah, mon Dieu, Seigneur.
Quelle histoire.
On est avec toi, Camille.
Je veux te parler d'une histoire qui se déroule en Beauce actuellement, Denis. Moi, c'est un individu que j'ai découvert sur TikTok. Je ne sais pas si tu es là une fois de temps en temps. Là. Il y a des trucs, il y a du n'importe quoi sur TikTok. Il y a des choses qui sont extrêmement pertinentes, dont Farnell, qu'on peut entendre une fois de temps en temps sur les ondes de boulevard. Il est hyper pertinent, mais il y a des fois des choses qui n'ont pas de maudit bon sens. Il y a un gars que j'ai découvert sur TikTok. C'est un jeune homme, peut-être dans les âges à max, là, entre 20 et 25 ans, qui s'est fait arrêter hier.
Oui.
Puis c'est justement le gars que je suivais sur TikTok, puis je disais, tabarouette, le gars, c'est un justicier, il fait ce job-là, parce que peut-être que la police n'est pas capable de faire ce job-là. Ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il faisait la chasse aux pédos.
Mm-hmm.
Dans les dernières années, je te dirais, même dans notre ancienne vie radio, on avait reçu un chasseur de pédos, puis heureusement, lui, il n'avait pas été inquiété par les policiers parce qu'il semblait faire les choses de la bonne façon. Est-ce que c'est à lui à faire ça? Moi, je pense que non, mais s'il le fait pas, il y a peut-être plus de pédos qui peuvent continuer. Dans le cas de ce jeune homme-là, les policiers sont intéressés à lui parce qu'il a pogné plusieurs pédos. Il y avait 45 000 personnes sur sa page TikTok et lui, il se considérait comme étant le chasseur de pédophiles. Son nom, c'est Nicolas Bérubé, chasseur de pédophiles. Devine quoi? Il a été arrêté hier en lien avec des accusations de pornographie juvénile. Distribution de pornographie juvénile.
Mm-hmm.
Lui a tenté de devenir un justicier sans connaître les lois.
Mm-hmm.
Okay? Puis c'est quoi toute l'histoire de tout ça? On va l'avoir lorsqu'il va passer en cours. Là. Mais ce qu'il doit avoir fait, c'est qu'il a utilisé du matériel qui intéresse les pédophiles pour attirer les pédophiles. Comme quelqu'un qui veut attirer des mouches, ben, il fait du miel, il met de l'eau sucrée, puis là, les mouches vont arriver. Lui a utilisé ça sans savoir que ce qu'il est en train de faire là, c'était un crime.
On a parlé de la nouvelle hier après-midi, puis ma première réaction, ça a été de me dire, bon, un autre Batman en bobette. Tu sais, tout le monde veut être Batman. Il y a une scène dans le film The Dark Knight où tu as des Batman bedonnants, mal déguisés, qui essayent de faire la justice dans les rues de Gotham City. Puis là, le vrai Batman arrive, puis il y a un de ces gros Batman bedonnants-là qui dit « C'est quoi la différence entre nous autres pis toi? » Et là, Batman de répondre avec sa voix charmante « Moi, je fais pas la justice avec des pattes de hockey. » Puis là, il s'en va. Une façon de dire « Moi, je suis équipé pour faire la justice, pis pas toi. » J'ai regardé des capsules ce matin que je n'avais pas vues de ce gars-là, puis je suis obligé de dire que il y a une certaine noblesse dans ce qu'il fait que moi je respecte, dans le sens où la façon qu'il avait de confronter les gars qui se présentaient, c'était très calqué sur l'émission qui a existé aux États-Unis, How to Track a Pedophile, qui a été très, très, très populaire, où le gars se fait passer pour une petite fille de 12 ans, puis là, t'as un pédophile qui arrive tout excité avec les culottes aux chevilles, puis là, il rentre dans l'appartement, puis là, il y a 8 caméras, puis il y a le gars qui est assis en costard, puis qui dit non, pars pas, viens t'asseoir, viens nous dire ce que tu faisais, faire ici.
Là. How to Catch a Predator.
How to Catch a Predator, ouais, j'avais pas le bon nom, toutes mes excuses. Je me suis posé la question, parce que le gars qui a été arrêté était très populaire sur les réseaux sociaux. Il a fait une entrevue dans un podcast il y a 2 semaines pour expliquer comment il fonctionnait. Et j'ai l'impression que les policiers ont décidé de lancer le message que ça se fait pas.
Ça se peut ou il a été flagué par un Google de ce monde ou il a été flagué par un Outlook de ce monde parce que s'il y a énormément de pédos qui se font qui s'envoient des fichiers de ce genre-là.
Ouais.
Puis tu sais que je sais pas si vous le savez là, mais quand vous envoyez un courriel, il est vérifié quand même là.
Mais tu me connais, moi je suis un complotiste.
Oui.
Oui, j'ai été populaire pendant la pandémie avec toutes mes théories tordues.
Oui.
J'en ai une là-dessus, moi, c'est que c'est un drôle de concours de circonstances, tu sais. 40 000 followers, entrevue dans un podcast populaire et whoop, 2 semaines plus tard, il est arrêté. J'ai l'impression que c'est un gars qui faisait peut-être trop bien sa job de chasseur de pédophiles. Puis non, faut pas faire ça.
Mais je me questionne, moi, sur le chef de production de porno.
Même chose pour moi.
Il y en a qui nous ont écrit par rapport à ça tantôt en disant que c'est peut-être dans ses écrits ou s'il se fait passer par quelqu'un pour quelqu'un de mineur puis qu'il écrit des affaires en lien avec quelqu'un de mineur, ça peut être ça de la... production.
Il y a 2 histoires. Celle du gars qui veut devenir Batman ou celle du gars qui est peut-être un pédophile puis qui décide, lui, d'obtenir du matériel comme ça avec ça d'autres serait... pédophiles tout en les faisant mal pareil.
Je t'en ajoute une 3e.
Vas-y,
voir. Où c'était vraiment un chasseur de pédophiles, mais il est devenu excité de voir des images de petits gars et petites filles.
Hey, là, vous m'écœurez toute la gang. Dans un cas, comme dans l'autre,
On a hâte de voir les résultats de l'enquête. Là.
Oui, c'est une histoire où, au palais de justice, ça va être très intéressant de regarder les détails de la preuve pour essayer de faire la distinction entre toutes nos théories ce matin.
Parce qu'on recherche des victimes, là. La SQ recherche des victimes.
Ben, mettons que t'es un pédophile qui s'est fait pogner dans sa vidéo, tu vas-tu aller voir la police en disant « Je suis le pédophile qui s'est fait pogner dans sa vidéo? »
Je pense pas que c'est ce genre de victime-là qu'on recherche.
Moi, je pense que oui. Là.
Hey boy! mais va falloir démêler tout ça au palais de justice. Ça, ben c'est important. C'est un dossier intéressant.
Parce qu'il va pouvoir peut-être s'en sortir s'il mentionne que lui, il faisait du journalisme citoyen. Parce que quand tu fais une enquête journalistique, tu as le droit, des fois, d'enfreindre certaines règles. Ce que je ne vous conseille pas, si, exemple, vous voulez acheter une arme à feu pour démontrer que c'est facile d'acheter une arme à feu légale, communiquez avec la centrale de police de votre coin. Jaser avec les policiers de quelle façon vous pouvez faire ça. Puis avec l'assistance de la police, vous allez pouvoir faire cette enquête-là. Il y a moyen, des fois, de faire ce type d'enquête-là sans te ramasser dans ce problème-là. Je l'avais fait avec ton chum Alex Leblond.
Oui.
Oui, il y avait un genre de... Avant que le pot soit légal au Québec, il avait mis sur la rue Saint-Jean un genre d'endroit où tu pouvais aller chercher ton pot, mais ça prenait une prescription des médecins. Tu t'en souviens-tu de ça?
Oui, oui, oui. Oui.
Et moi, je m'étais dit, j'avais une idée de génie, je faisais des remplacements. C'était pas mon show, fait que c'était pas si grave que ça. Fait que j'avais envoyé Alex Leblond...
C'était-tu mon show?
Je pense que oui.
Why not?
C'était on s'en sac, au pire, Gravel ramassera à marre.
Mais non, mais voyons, Gravel, avec ta notoriété, c'est pas grave, là.
J'ai envoyé Alex Leblond, reporter sur la route, aller... Hey, j'essaie de chercher le nom du magasin qu'il y avait sur... comment on appelait ça, ce type de... Pas un parloir, comment qu'il appelait ça? Bref, j'envoie Alex Leblond là avec une fausse prescription. Mm-hmm. Sur la prescription, c'était écrit « Docteur Philippe Couillard ». Il y avait aussi dans le bureau, il y avait Dr Gaétan Barrette, tout ça. Puis c'était prescription cannabis. Mm-hmm. Puis là, on donnait un truc bidon. Puis ça avait été fait par notre graphiste à l'époque. Et
ça avait marché.
Alex Leblond s'en va là. Il allume son téléphone, on l'a en onde, puis en quelques secondes, il a réussi à avoir justement son gramme de cannabis. Mais moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que, tu sais, ça chie une fois rendu au comptoir.
Le problème, c'est que ça a marché.
Ça a tellement marché que le gars qui a pris ma prescription avec Dr. Philippe Couillard, qui était à l'époque le premier ministre du Québec, là, il a dit à un gars qui essayait d'avoir du pot avec une fausse prescription, « Regarde, c'est ça qu'il faut que t'aies comme prescription. » Des problèmes, là. Fait que là, Alex s'en va se cacher dans les toilettes puis il dit « Là, Yann, en onde. » Il dit « Qu'est-ce que je fais? » Ben, je dis « Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? T'as réussi à avoir du pot? » Puis là, moi, je savais que c'était illégal, là! Fait que je dis à Alex, ben, va-t'en à la centrale de police.
Va te dénoncer!
De la ville de Québec. Dis que t'es Alex Leblond, de cette station-là, que tu faisais une enquête, puis que tu viens remettre le produit qui est considéré comme étant un produit criminel. Puis quand il est arrivé à la centrale de police du Parc Victoria à l'époque, la dame l'a accueilli en disant, ben, vous savez ce que vous avez fait là, c'est criminel, monsieur? Ils l'ont amené dans un bureau en arrière
non.
pour prendre sa déclaration, oui.
Mais là, incroyable
moi, il revient à la station. Il me dit là, il dit j'ai rempli une déclaration, je pourrais être poursuivi. Fait que là, j'ai dit hey, moi, je m'attendais pas à ce que ça fonctionne, va t'organiser avec Phil.
C'est la dernière fois que vous vous êtes parlé, c'est ça?
Max prend des notes.
C'est le dispensaire. Il avait appelé ça un dispensaire sur Saint-Joseph. Merci aux auditeurs qui se souviennent de ce reportage-là. Mais c'est ça, je voulais être un justicier. Le problème, c'est que j'ai envoyé quelqu'un d'autre à ma place.
Le problème, c'est que ça a marché.
Mais oui, puis j'avais fait une fausse prescription. Fait que ce qu'on m'avait expliqué, ce que le service des communications de la Ville de Québec m'avait expliqué, c'est que pour du journalisme, c'est possible de faire ce genre de choses-là, mais il faut toujours être assisté par les policiers.
Par les policiers.
C'est le bout que j'avais manqué. Mmh.
Puis c'est peut-être ça, regarde, on verra là, si le gars est un pédophile, j'ai aucune compassion, aucune sympathie.
Zéro.
Si le gars a produit du matériel pornographie juvénile puis qu'il y a des victimes, j'ai zéro compassion, zéro sympathie. Si les policiers veulent passer un message parce qu'ils ont peur qu'un trend se crée où tout le monde part à la chasse aux pédophiles, puis qu'ils ont décidé de prendre le plus populaire puis de le piner, là, j'aimerais qu'on aille une discussion sur les peines imposées aux abuseurs d'enfants, par exemple.
Tu pourrais avoir un petit peu de sympathie dans ton sac de sympathie qui est toujours vide.
J'en avais pas hier. J'ai regardé ce qu'il a fait sur les réseaux sociaux puis tout ça, puis... J'ai peut-être quelques graines de fond chip de sympathie pour le bonhomme, mais je me garde un droit de réserve. Je veux pas juger avant qu'on connaisse vraiment le détail
si
des
moi, je peux changer, alors tout le monde peut changer! Hey, on parle jamais de musique dans le show du matin, fait qu'on va parler de musique aujourd'hui. Un bébé de 4 mois qui a fait la couverture d'un des albums les plus vus dans le monde entier en 1991. C'était l'album... Nevermind de Nirvana. C'est le bébé qui avait la zone dans l'eau qui a été la zone la plus exposée sur la planète. Le gars Spencer Eldon a souvent été dans des show talk en disant « Ben oui, c'est moi qui étais le bébé là-dessus. Voici ce que je suis devenu tout ça. » Puis à un moment donné, il s'est comme aperçu qu'il y avait une fracture à l'intérieur de lui qui faisait en sorte qu'il n'en revenait pas, qu'on ait utilisé son image.
T'es sûr qu'il ne s'est pas aperçu qu'il y avait du cash à faire?
Que ses parents s'étaient fait flouer pour une poignée de dollars et a décidé de demander un montant substantiel pour avoir fait la une de cette pochette-là, Nevermind de Nirvana.
Il dit qu'il est victime de pornographie juvénile. Puis c'est l'argument qu'il essaye de faire valoir en cours, étant donné que c'est un corps nu qui a été exposé, qui a été acheté et qui a été vu par des millions et des millions de personnes à travers le monde. Le problème... c'est que ça a été fait dans un but artistique qui a eu une compensation monétaire. Puis, je pense qu'il n'y a rien là. Je sais pas. Tu sais, je comprends là, que c'est un petit gars, c'est une zone à l'air, mais c'est une pochette d'album. Je sais pas. Comment vous filez par rapport à ça, vous autres?
Bien, moi, ça m'envoie un signal.
Lequel?
Parce que, tu sais, jamais j'utiliserai la photo de mes enfants tout nus, là. Mais mes gars, je les expose sur les réseaux sociaux, c'est ma plus belle fierté.
Mm-hmm.
Puis ils m'ont jamais demandé la permission.
Ouais.
Puis ils m'ont jamais donné la permission. Puis des fois, je leur dis, hey, j'aimerais ça faire une belle photo avec vous autres. Puis ils me disent, papa, je veux pas que tu mettes ma photo sur les réseaux sociaux. Puis j'essaie de respecter ça le plus possible, mais c'est difficile.
Ouais. Bon,
ils vont se retourner contre toi.
Puis les ben non, mais c'est parce que plus tard, tu sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ouais. Ils peuvent te dire, ils peuvent te reprocher certains trucs. Hey, papa, je t'avais dit que je voulais pas que tu mettes tes photos là. Puis il y a des photos de moi, bébé, puis j'aime pas cette photo là. Mais dans son cas, à lui, c'était un bébé qui avait 4 mois à l'époque.
Ouais.
4 mois.
C'est pas ses parents qui devraient poursuivre.
Ben, c'est ce que je pense.
C'est parce qu'ils ont moins d'argent que Dave Grohl puis la succession de Nirvana. Hein?
C'est ce que je pense. Ouais. À savoir s'il y a vraiment eu quelque chose en lui qui a émergé en 2021. T'sais, Max en doute, je me positionne un peu plus du côté de Max et qui s'est rendu compte que la vie était peut-être un peu plus dure qu'il pensait puis que faire de l'argent facile, c'était intéressant. Là. Quoique le montant qui était demandé, c'était autour de quoi? 150 000. Là. C'était pas astronomique. Là. Il aurait pu y donner. Là.
Ouais, Dave Grohl aurait pu y donner puis dire hey, excuse-nous, là, si jamais t'es poqué de la vie à cause de ça.
Ben, moi, je pense que c'est un cas qui devrait être réglé hors cours, justement. Puis, la gang de Nirvana, notamment Dave Grohl, ont beaucoup d'argent. Je pense que si tu veux faire bonne figure et œuvre de bienséance, et dans la situation où Dave Grohl est à l'heure actuelle.
Ouais, ça peut faire du bien.
Ça pourrait faire du bien, ça pourrait redorer l'image.
Est-ce que l'enfant de la pochette de Nirvana pourrait être un enfant illégitime de Dave Grohl?
Peut-être.
Je pose la question, je n'ai pas la réponse.
Ce que je me pose comme question, puis toi, tu as certainement la réponse. On y a-tu enlevé la zone? Tu sais, le bébé, là...
Sur la pochette?
Sachant que le gars, il était plus à l'aise, là, sur toutes les images de cette pochette d'album-là qui sont sur numérique sur les réseaux sociaux. On a-tu enlevé la zone?
Tu m'excuseras.
C'est pas quelque chose que tu remarquais.
C'est pas quelque chose que j'ai regardé. En fait, sur la pochette originale, je peux même pas te dire personnellement si le petit a la zone à l'air ou pas. Faut croire que mes priorités sont ailleurs, personnellement.
Je vais regarder. Ouais.
Tu sais, en passant, l'histoire de cette pochette-là, c'est un documentaire que...
Je te confirme que sur certaines images, on a enlevé la zone et d'autres, on a toujours la zone.
OK. L'histoire de cette pochette-là, il y a peut-être des gens qui se posent la question, c'est Kurt Cobain et Dave Grohl, pendant une nuit blanche, qui regardaient un documentaire sur les bébés qui apprennent à nager. Des bébés qu'on laisse aller dans le fond de l'eau puis qui nagent tout seuls. Là, tu sais, il y a une méthode qui existe, que moi, je n'utiliserai jamais avec mes jeunes bambins.
Ça doit toujours bien vivre,
C'est ça qu'on se dit.
Vite de même, là.
Mais c'est ça. Il avait vu l'image, puis ça leur était resté dans la tête. Puis quand est venu le temps de faire la pochette de l'album Nevermind, ben, ils se sont dit, hey, on va recréer ça avec un bébé qui court après 1 $. Ça montrait bien pour eux autres la société dans laquelle ils vivaient, puis qu'ils avaient le goût de brasser.
Il n'y avait pas de mauvaise intention derrière ça.
Non. Puis, tu sais, il faut comprendre la démarche artistique. En même temps, il y a des lois. Est-ce que c'est de la pornographie? Mais, tu sais, dépendamment des pays, puis dépendamment des endroits, puis des secteurs, c'est peut-être ça qui a décidé si oui ou non on voyait la zone ou pas.
C'était plus, tu sais, je pense que c'était plus un message plutôt sociétal, là, de la façon qu'on élève nos enfants, tout ça. Puis ça faisait très grunge.
Puis personnellement, à l'âge que j'ai, si jamais tu tombes sur une photo, et il en existe, de Denis Gravel à 6 mois, la zone à l'air, avec la toque de son grand-papa Clément sur la tête, ben, j'aurais pas de séquelles. Si tu mets sur Facebook,
c'est pas besoin de test de généalogie, là. Il ne vient pas du continent africain.
moi aussi, ma maman prenait des photos de moi dans le bain.
Ouais, ben c'est ça. Hein,
le bain, des fois, était le lavabo, fait qu'on voyait la zone.
On a toutes des photos de même.
Denis, il y a un auditeur qui me rappelle des souvenirs de ce que je te racontais, là, de mon enquête avec Alex Leblon sur le fameux dispensaire qui était ouvert sur Saint-Joseph. Quelques heures après, parce que nous, on a passé ça, je remplaçais le midi. Fait qu'on a passé ça en ondes sur l'heure du midi, l'enquête d'Alex Leblon qui réussit à sortir du pot du dispensaire. Et quelques heures après, la police de Québec était débarquée. Parce que là, ça commençait à faire jaser ce dit dispensaire-là. Puis le monsieur était bien fâché après nous autres. OK, nous, Denis Gravel, merci.
Hey, merci, les amis. Ce soir, 16h,
yes.
Face à face.
Qui va être là?
Bruno Marchand. Et Sam Hamad.
Les thèmes abordés.
Il va y avoir l'économie, il va y avoir l'itinérance, la sécurité, il va y avoir Québec dans 10 ans, dans 15 ans, il va y avoir le transport en commun et le transport en général. Et j'en oublie un, évidemment, l'itinérance. Je l'ai dit.
Sécurité, itinérance. T'es tout dit.
J'ai tout dit.
T'es prêt pour 16h, on t'écoute. Salut, Denis.
Salut. Merci.
Après la pause, on reçoit Claude Villeneuve, le chef de Québec d'abord et candidat à la mairie de Québec. Boulevard 102.1.